Oui, je viens bientôt. Et bien aimé, comme je vous l'ai dit hier soir, ce n'est pas moi qui ai choisi le thème de ce séminaire de 3 jours, mais les responsables du groupe biblique de la rive sud. Et ce titre, je le fais remarquer pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, est un texte de l'Apocalypse, où nous entendons le Christ glorifié proclamer son retour. Sa venue, qui est appelée généralement dans plusieurs églises la parousie, d'un verbe grec, parousia, qui veut dire présence, et qui désigne la parousie, le second avènement, la seconde venue de Jésus-Christ. Une venue vraiment glorieuse. Un autre mot venu également du grec est employé parfois pour désigner aussi le retour du Christ. On parle de son épiphanie, qui veut dire son apparition. Et je voudrais souligner ici qu'il ne faut pas confondre ce mot épiphanie avec la fête dite de l'épiphanie et qui est une fête religieuse qui commémore quoi ? L'adoration des mages, ce qu'on appelle aussi la fête des rois, n'est-ce pas ? Cette fête des rois qui est aussi le commencement de quoi ? Dans le monde ? Du carnaval, hein ? La fête des rois, c'est le commencement du carnaval dans le monde, que ce soit celui de Venise, que ce soit celui de Nice, ou que ce soit celui de la capitale du Brésil. Vous la connaissez, hein ? Rio, le grand carnaval de Rio, qui commence avec l'épiphanie. Et qui se poursuit, ce carnaval, jusqu'à ce qu'on appelle le Mardi Gras, qui est suivi de quoi ? Du mercredi des cendres, qui est le commencement du carême, qui dure 46 jours, donc jusqu'à Pâques, où l'on jeûne, ou bien où les grands religieux font de grandes conférences bibliques du carême. Alors hier soir, pour obéir à une règle qui me paraît essentielle, règle de l'exégèse biblique, nous avons remis le texte « Oui, je viens bientôt » dans son contexte, et je le signale, c'est dans le chapitre 22 de l'Apocalypse que l'on trouve cette parole du Christ glorifié qui est apparue à l'apôtre Jean et qui affirme solennellement « Oui, je viens bientôt ». Alors, nous l'avons remis dans son contexte hier soir et nous avons lu une partie du chapitre 22 de l'Apocalypse à partir du verset 6 à 21. Mais selon l'annonce qui était faite par les organisateurs, je pensais qu'il n'y aurait pas d'autres personnes que celles de hier soir. Alors, j'ai pensé ce soir que je n'avais pas besoin de vous relire ce texte, de sorte que les nouveaux, je vous en prie, lisez-le à la maison, ce chapitre 22 de l'Apocalypse. Je vous demanderai simplement à vous qui l'avez entendu hier soir de rester vraiment imprégné par le contexte de ces paroles. Oui, je viens bientôt. Et hier soir, pour vous aider à bien comprendre ce sujet, nous avons même pris le temps de nous arrêter sur chaque mot afin de bien en définir le sens de ce « oui, je viens bientôt ». Et je veux croire que personne ne s'est offensé de cette précaution que je prends devant, je l'avoue, n'importe quel auditoire pour que la personne la moins instruite parmi nous ne se sente pas frustrée. Jésus agissait de même, et c'est lui qui m'a appris cela, avec ses disciples, quand il leur disait, est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit? Est-ce que vous avez compris toutes ces choses? Il était vraiment désireux de parler pour être compris. Quelquefois, il disait, oui, nous avons tout compris, qu'il n'avait rien compris. C'est ce que nous voyons au cours de l'Évangile. Oui, Seigneur, nous avons tout compris. Matthieu 13, verset 51. Alors, je reviens à ce titre. Oui, je viens bientôt. Nous avons donc vu que cette affirmation venait, comme je l'ai dit, de la bouche du Christ glorifié, et nous avons constaté que les disciples de Jésus avaient cru à la proximité de la seconde venue du Seigneur. Et ils avaient enseigné que le Seigneur pouvait revenir d'un moment à l'autre. Et ils avaient vraiment vécu en l'attendant au cours de leur existence. Et cette attente quotidienne du retour du Christ glorieux, eh bien, avait eu une influence extraordinaire dans leur vie. Et nous nous sommes demandé hier soir si après 1900 ans, parce qu'il y a 1900 ans que cette parole a été dite, nous nous sommes demandé si nous croyons encore à la venue du Seigneur Jésus, qui est la parousie ou son épiphanie, sa seconde apparition. Je me suis adressé hier soir à votre intelligence en vous mettant en contact avec la parole de Dieu, parce que je suis un de ces hommes qui croient ce que dit le psaume 119, que je vous cite, le verset 130e, la révélation de tes paroles illumine ou éclaire, donnant de l'intelligence aux simples. Eh bien, j'espère que vous êtes venus ici avec ces cœurs simples et que le Saint-Esprit que nous invoquons maintenant vous donnera l'intelligence pour comprendre ces vérités si précieuses. Et en pensant que la plupart parmi vous, vous êtes déjà des croyants, je me suis appuyé aussi, en m'adressant à votre intelligence, sur ce que dit Paul à son enfant dans la foi, Timothée, au chapitre 2, verset 7 de sa deuxième épître, « Considère ce que je te dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. » De l'intelligence aussi pour saisir les vérités merveilleuses de son retour. J'ai donc parlé à votre intelligence, et j'y fais appel encore ce soir. J'ai parlé aussi à votre conscience, persuadée que l'Esprit de Dieu pouvait rendre votre conscience sensible ou la réveiller et la purifier de toutes les œuvres mortes qui sont bien souvent l'activité des chrétiens. Des œuvres mortes, c'est-à-dire des œuvres que l'on fait mais qui ne sont pas les œuvres de la foi. Et qui n'ont pas pour origine une une foi profonde, on pratique, on fait quelque chose, parce que ça fait bien aussi dans le monde. Ce sont des œuvres mortes pour Dieu. Les œuvres qui comptent, qui ne sont pas entachées de souillures, sont les œuvres qui viennent d'une foi sincère, d'une foi totale, qui n'est pas une aventure, mais qui est une obéissance à une parole qui vous a été donnée. La foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. J'ai en horreur d'entendre dire que la foi est une aventure. Ce n'est pas vrai. La foi est une obéissance. On ne part pas à l'aventure. Quand on a la vraie foi, on part parce qu'il nous a appelés, parce qu'on a entendu son appel. Et c'est quelque chose de très précis. Et mes amis, je vous ai aussi parlé, j'espère le faire encore ce soir, malgré toute ma faiblesse, je vous ai parlé au cœur. J'ai essayé de m'adresser à votre cœur, qui est le centre de la vie, qui est le siège de nos affections, pour stimuler votre amour pour celui qui est venu une première fois, parce que c'est bien cela qu'il a fait. Il nous a aimés le premier, et lui qui était en forme de Dieu, qui était Dieu lui-même, il nous a tellement aimés qu'il a consenti à s'anéantir lui-même pour venir vivre au milieu d'hommes pécheurs, pervertis, tels que nous étions, dont les cœurs étaient remplis de toutes sortes de passions infâmes, eh bien, il nous a aimés, tels que nous étions, lui qui haïssait le péché, il a aimé les pécheurs, et il est venu à nous pour nous sauver. Et alors, comment notre amour maintenant, pour celui qui nous a tellement aimés, comment ne déborderait-il pas de nos cœurs? Comment ne serions-nous pas des hommes et des femmes qui aiment dans ce monde et qui aiment tellement que le monde verra que le Christ est réellement en nous l'amour de Dieu? Et alors, en cherchant à vous présenter la doctrine authentique de la révélation divine, et en étant simplement un canal qui désirait vous la transmettre, cette révélation, sans rien y ajouter, comme nous l'avons lu hier dans l'Apocalypse, et sans rien y retrancher, je veux croire qu'hier déjà, pour ceux qui étaient là, comme le disait saint Augustin, vous vous êtes mis à croire en écoutant. Ça fait de cette audition. Croire en écoutant. À espérer en croyant et à aimer en espérant. Car quand on espère, on peut aimer. Oui. Croire en écoutant. Espérer en croyant et aimer. En espérant. Oui, je viens bientôt. Et je vous ai signalé encore que Jésus avait annoncé que dans les derniers jours, parce que l'iniquité serait accrue sur la terre, l'amour de plusieurs se refroidirait. Matthieu 24, verset 12. Et Jésus avait dit également cette parole qui m'a souvent bouleversé dans le chapitre 18 de Luc au verset 8e. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Trouvera-t-il de ces cœurs qui ont cru sa parole, qui ont obéi à sa parole et qui l'attend? Enfin, j'ai cité l'apôtre Pierre, cette pierre que Jésus avait choisie pour paître ses agneaux et pour être vraiment le berger de ses brebis. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas d'une église qui le dit, c'est la parole de Dieu. Jean chapitre 21, versets 15 à 17. Le grand confesseur de la foi, malgré son reniement, a été réellement restauré de telle manière que Jésus lui a dit, paie mes agneaux, sois berger de mes brebis. Eh bien, ce Pierre, à la fin de son existence, lui qui avait été si bouillant pour le Seigneur, nous a déclaré qu'au dernier jour, il viendrait des moqueurs qui diraient où est la promesse de sa venue, chapitre 3 de la deuxième de Pierre, versets 1 à 4. Et Pierre ajoute que ces gens-là, qui sont pourtant peut-être des gens religieux, ignorent volontairement certaines choses. Et vous trouvez que c'est de l'intelligence, une ignorance volontaire. Quand l'ignorance est involontaire, et on peut encore comprendre, même qu'il est dit que nul n'est censé ignorer la loi, mais quand il est question d'une ignorance volontaire, quand il est question, comme le dira l'apôtre Paul aussi, qu'on a connu la vérité, mais que la vérité, on ne l'a pas aimée, c'est pourquoi le jugement vient sur tous ceux qui n'ont qu'une connaissance intellectuelle de la vérité, mais qui n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et c'est ça qui m'empoigne ce soir. Avez-vous l'amour de la vérité pour être sauvés? Vous savez, toutes vos doctrines les plus orthodoxes, elles ne vous sauveront pas, pas plus, comme je le dis souvent, de crier H2O dans un désert. Ça ne vous donne pas de l'eau. Vous mourrez avec votre connaissance de la formule chimique de l'eau. Si vous n'avez que des formules, que des dogmes que vous croyez intellectuellement, vous mourrez avec vos dogmes. Il vous faut la vérité, et celui qui est la vérité, c'est qui? C'est Jésus. C'est une personne, et pas une personne qui reste extérieure à vous, mais une personne qui vous devient intérieure, qui habite en vous et qui vit en vous, la vérité en vous. Oh, je demande au Seigneur que cette vérité vraiment nous habite. Donc, ce que j'ai voulu résumer pour les personnes nouvellement arrivées, c'est certains points que nous avons soulignés hier soir. Il y a aujourd'hui, selon les paroles de Jésus, dans ces derniers jours, déclin de la foi, malgré les bulletins triomphalistes de beaucoup d'évangélistes. Et je suis heureux quand une âme se tourne vers le Seigneur. Mais vous savez, je ne vois pas le monde s'améliorer, pas même par les grandes missions d'évangélisation. Le monde se déchristianise de plus en plus, et après les grands moments d'émotion, après les décisions qu'on voudrait croire véritables et heureuses, eh bien, nous voyons les gens rester étrangement les ils n'ont pas été saisis dans la mort du Christ pour ressusciter réellement en lui et marcher en nouveauté de vie. De telle sorte qu'il y a des gens du monde qui sont plus en exemple qu'une foule de baptisés, même pour une seconde fois, par immersion. Alors que le Seigneur nous garde et que nous acceptions dans ces soirées la minute de vérité pour chacune de nos vies. Déclin de la foi, déclin de l'espérance. Et c'est si vrai qu'il y a une foule de gens qui se suicident, non pas nécessairement parce qu'ils manquent de tout dans ce monde, mais parce qu'ils ont trop. Et même avant 20 ans, ils avaient déjà trop. Mais ce qui leur manquait, c'était l'amour. Parce qu'ils ne se seraient pas suicidés probablement s'ils s'étaient sentis aimés. Parce que l'iniquité prévaudra, l'amour de plusieurs se refroidira. Il fait froid dans ce monde, il fait froid souvent dans les églises, il fait froid entre les communautés. Il y a des murs de glace, ces icebergs que l'on voit quand on vient des vieux pays et qui sont là. Qui ont fait couler un jour un grand navire, le Titanic, et dont on a retrouvé les pages. Mes amis, oui, la foi, l'espérance, l'amour déclinent à la fin du 20e siècle, où l'Évangile a été annoncé. Alors c'est pourquoi, dans un tel temps, je vous ai prié, hier soir, à ceux qui étaient là, je vous ai demandé de relire un texte qui nous a déjà occupé, Hébreux, chapitre, vous vous souvenez? Chapitre 10, n'est-ce pas? Verset 35. Dans une situation pareille, parce que le monde se rend compte que tout va mal, il y a l'angoisse partout, hein, qu'est-ce que nous pouvons faire, nous les chrétiens? Je vous ai demandé de relire ce texte. Alors ça, ce soir, je vais le lire parce que plusieurs n'étaient pas là. Verset 31. N'abandonnez donc pas votre assurance, parce qu'on doit avoir une assurance, ou n'abandonnez donc pas votre espérance, mais une espérance qui est une assurance à laquelle est attachée une grande rémunération ou une grande, mais très grande récompense, car vous avez besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Encore un peu de temps. Et celui qui doit venir viendra. Celui qui a dit oui, je viens, bientôt. Encore un peu de temps. Et celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Êtes-vous de ceux qui disent, il a trop tardé, nous n'y croyons plus. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et alors, vous comprenez pourquoi il peut y avoir le désespoir. Et quand le plaisir de Dieu se retire d'une âme. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Souvenez-vous de Saül, le roi d'Israël qui n'a pas marché, qui n'a pas cru, qui n'a pas obéi, qui n'a pas saigné. Verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi. Pas n'importe quelle foi, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme, car nous sommes sauvés en espérant. Alors, est-ce que j'ose vous demander si vous avez relu ce texte hier soir, comme j'ai insisté auprès de vous? Oh, je ne vais pas vous demander de lever la main pour que ceux qui ne l'ont pas lu ne sois pas tenté de faire la même chose, ça, ça serait encore ajouter un péché, ce serait encore mentir. Je peux bien comprendre que peut-être vous ne l'avez pas fait, vous ne l'avez pas lu. Je sais très bien que souvent j'ai crié dans le désert, mais les plus grands que moi l'ont fait eux aussi. Mais je vous l'ai demandé d'une façon sérieuse. Et alors, si vous ne l'avez pas fait hier soir, peut-être le ferez-vous ce soir. C'est encore un jour de grâce. Et je voudrais que vous repassiez dans vos cœurs, que vous appreniez à méditer ces paroles, que, à l'instar de Marie, la mère bénie de notre Seigneur, que toutes les générations diront bienheureuse, et nous la disons bienheureuse, et bien que vous méditez ces paroles, les unes après les autres. Car, voyez-vous, il n'y a que cela qui peut vous faire progresser et vous faire vraiment changer, transformer complètement dans vos pensées, dans vos paroles, dans vos actions. Parce que nous croyons avec Paul que toute l'écriture est inspirée de Dieu, comme il le dit au chapitre 3 de la deuxième épître à Timothée, et qu'elle est utile pour nous enseigner, pour nous convaincre. Peut-être que ce soir, nous sommes convaincus d'un peu de légèreté, parce que nous avons bien entendu cela, nous avons bien dit, je relirai cela avant de m'endormir, peut-être, mais nous ne l'avons pas fait pour nous convaincre, puis pour nous corriger. On a besoin d'une correction, et vous savez, les corrections du Seigneur sont toujours des corrections d'amour, des corrections mesurées, pour nous instruire, voilà ce qu'elle fait la parole de Dieu, pour nous instruire dans la justice afin de nous rendre accomplis, c'est-à-dire propres pour toute bonne œuvre. Dieu a préparé des œuvres pour chacun de nous. Quand j'entends certaines personnes se demander quelle œuvre elles pourraient faire pour le Seigneur, eh bien, ça me trouble un peu. Parce que le Seigneur a préparé pour nous des œuvres. Nous, nous voulons faire des œuvres. Mais le Seigneur en a préparé lui-même. Alors, si je dois demander, Seigneur, donne-moi de discerner les œuvres que toi tu as préparées pour moi, pour que nous les accomplissions. Et il nous a formés pour cela. Il nous façonne par sa parole pour que nous soyons accomplis et propres pour tout bonheur. Ces œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous et que nous n'avons pas à chercher. Ces œuvres que nous avons à accomplir en attendant qu'il vienne, parce que nous voudrions qu'il nous trouve à la place qu'il désire. Et je me permets de vous poser encore une question à vous qui étiez là hier soir. Quel est l'état de votre âme en cette soirée du 23 juillet, du 23 mai 1987? Quel est l'état de votre âme? À quoi en êtes-vous au sujet de votre assurance, de votre confiance? N'abandonnez pas votre assurance. Est-ce que vous avez encore votre assurance? Est-ce qu'elle a été renouvelée déjà hier? Est-ce que vous avez été renouvelé dans votre confiance? Puisque Dieu a dit, ça s'accomplit, oui, il a dit oui. Toutes ses promesses sont oui. Alors, dans quel état êtes-vous au sujet de votre assurance? Avez-vous songé à ce que c'était? C'était cette grande récompense, cette rémunération qui est attachée à votre assurance. Si vous avez cette assurance, il y a une grande récompense pour vous. Il y a la guérison, il y a tant de choses que vous cherchez à droite et à gauche et qui se trouvent dans cette confiance que vous devriez avoir en votre Dieu. Si même les hommes disent qu'ils ne peuvent rien pour vous, le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Il peut encore. Selon sa volonté. Alors, il y a une grande récompense qui est attachée à cette assurance. Et cette assurance, c'est avant tout ce retour de Jésus-Christ, cette attente certaine qu'un jour, on ne l'attendra plus, mais qu'il sera venu. Quelle est cette grande récompense? Nous aurons, si nous n'avons pas perdu cette confiance, une riche entrée dans son royaume. Parce que il y en a qui entreront par la porte de service, si j'osais dire ainsi. Mais ce que le Seigneur voudrait pour tout y racheter, c'est que vous puissiez entrer par la grande porte. Maintenant, pour marcher dans le sentier du Seigneur, c'est une porte étroite. Mais quand on arrivera, ce sont les portails éternels qui doivent s'ouvrir, psaume 24. Et il voudrait que vous ayez une riche entrée, une entrée royale dans le royaume du Christ et de notre Dieu. Non pas une petite entrée juste en vous faufilant. Non, il voudrait une riche entrée pour vous. Il y a une grande récompense qui est attachée à cette assurance du retour du Christ. Alors, avez-vous compris aussi que vous avez besoin de patience en pensant, mais voilà, il l'a dit depuis si longtemps qu'il reviendrait, et puis il n'est pas encore revenu. Eh bien, l'apôtre Pierre, s'il l'avait attendu, lui ne se révolte pas, il dit, s'il n'est pas revenu encore, c'est qu'il a de la patience envers qui? Envers des âmes perdues, qu'il voudrait encore sauver. Alors, vous qui êtes sauvés, bien, vous pouvez bien patienter pour qu'une âme qui vous est chère aussi le soit. Alors, au lieu de vous révolter ou de mettre en doute la parole du Seigneur, vous vous mettez d'accord avec lui et vous entrez dans sa patience, la parole de sa patience. Comme il l'est dit de l'église de Philadelphie. Oui, nous avons besoin de patience. Jacques nous le dit. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et cette patience, elle est découronnée. Hein. Qu'est-ce qu'il a eu à la fin? Tout au double. Il a eu tout au double. Alors, mes bien-aimés, ne vous impatientez pas. Ne mettez pas en doute la parole de Dieu parce que certaines vérités ne se sont pas encore accomplies. Le ciel et la terre passeront, avons-nous lu hier, mais ces paroles ne passeront point. Et en attendant, bien, faites la volonté de Dieu. Il faut que nous fassions cette volonté de Dieu, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui a été promis. Ce qui a été promis, nous l'obtiendrons, mais il faut d'abord que nous ayons fait la volonté de Dieu. Est-ce que vous l'aviez fait, la volonté de Dieu, pour vous réjouir qu'il revienne dans une année, dans un mois, dans une semaine, demain, ou bien est-ce que vous êtes prêt maintenant, aujourd'hui, pour qu'il revienne avant midi? Là, sur votre chaîne, parce que c'est réglé. Ah, mes amis, la parole de Dieu, elle est là, comme une épée à deux tranchants, puis elle me perce d'abord moi-même. Mais on dira, oui, mais c'est la volonté de Dieu, bon, c'est difficile. Alors vous ne lisez pas la parole. Parce que le mystère de sa volonté nous a été révélé. Tout ce qui est appelé mystère a été révélé. Le mystère de la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que Dieu voulait nous avoir comme fils et filles d'adoption. Voilà le mystère de sa volonté. Ce qu'il veut, c'est que nous soyons ses fils et ses filles d'adoption. La volonté de Dieu, ce mystère de la volonté de Dieu, nous a été révélé. Et le bon plaisir de sa volonté, mais nous la connaissons par la parole de Dieu. Qui est-ce qui a fait le bon plaisir de la volonté de Dieu? C'est son fils bien-aimé. En lui, il avait mis tout son plaisir. Alors, ayez les yeux sur Jésus et vous verrez non plus sur des tables de pierre des commandements que vous n'êtes pas capable d'accomplir, mais vous verrez dans une personne celui qui a fait les délices de Dieu de toute éternité et qui, dans toutes les situations humaines, a glorifié son Père. sa première venue, le mystère de sa volonté. Il est révélé dans la vie du Seigneur qui entre dans ce monde en disant « Je viens au Dieu pour faire sa volonté. » Et qui, au milieu de son ministère, dit « Ma nourriture, ce qui m'alimente, ce qui me fortifie, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est cela ma viande, ma vraie nourriture. » Alors que les gens d'aujourd'hui nous disent qu'ils ne sont pas nourris dans leurs églises. Et pourtant, la nourriture substantielle qu'est la parole de Dieu, bien, c'est de faire la volonté divine. Et à la fin de sa course, vous voyez Jésus à genoux, à Gethsémané, j'étais bien ému il y a 15 jours au Montmartre canadien, dans un milieu entièrement catholique, de voir un prêtre qui disait qu'en 1972, il avait vécu à Gethsémané, alors que ce pauvre homme que je suis parlait de l'agonie de notre Seigneur et de notre Sauveur. Il disait qu'il avait été bouleversé, il a 80 ans maintenant, et il en témoignait devant la foule. Oui, chers amis, il nous faut apporter l'amour de Dieu à toutes les âmes, en dehors de toute étiquette, et ne pas nous soucier des barrières que les hommes mettent. Le Seigneur a quitté le ciel, c'est lui qui est mon exemple, et il est venu vivre dans un monde de souillure, de péché, et il a aimé tous les hommes. Et s'il a dû dire aux gens religieux des vérités sévères, c'est parce qu'il les aimait aussi. Mais les pauvres pécheurs, ceux qui le savaient, les prostituées et les gens de mauvaise vie, ils se sentaient attirés par Jésus parce qu'ils ne trouvaient pas quelqu'un qui était là pour les juger. Mais il les aimait. Et il sentait à son contact qu'il pourrait être vraiment transformé. Mais Jésus a eu pour les gens hypocrites, pour les gens religieux, il a eu des paroles d'acier, il a eu des paroles de feu, alors qu'il avait des paroles de grâce et d'amour pour les gens de mauvaise vie, non pas parce qu'il encourageait la mauvaise vie, mais parce qu'il voulait sortir de là. Et c'est ainsi qu'il y a eu une Marie-Madeleine, la pécheresse aux sept démons, si vous voulez, aux sept péchés capitaux que nous croyons en. Alors, mes frères et sœurs, que la grâce du Seigneur opère parmi nous, et que nous puissions voir Jésus dire, non pas ma volonté, mais la tienne. Il est vraiment le reflet de toute la volonté de Dieu. Et il ne l'a fait pas en rechignant. Mais ce que nous apprenons aussi, c'est que la volonté de Dieu, le conseil de sa volonté, eh bien, nous le connaissons aussi, c'est que la volonté de Dieu, elle ne s'accomplit pas par nos propres forces. Dieu ne m'a jamais rien demandé en me demandant mes propres forces, en appelant mes propres. Il m'a toujours donné ce qu'il me demandait. Ce que Dieu ordonne, on le dit souvent, hein, il le donne. Or, un des tests certains que on est dans la volonté de Dieu, c'est que nous avons la force de l'accomplir. Dieu nous donne sa volonté. Il nous la montre, nous avons l'intelligence pour la saisir, et puis maintenant, il nous faut la foi. Pour dire, eh bien, Seigneur, moi, je ne suis pas capable, mais puisque tu le demandes, alors agis. Et vous avez dans ce Hébreu 13, les derniers versets, c'est lui qui accomplit, c'est sa puissance à lui qui accomplit sa volonté en nous. Alors voilà, quand vous méditez sur chacun de ces termes, et puis avez-vous compté ces choses promises? Une fois que vous avez fait la volonté de Dieu, mais qui vous est révélé. Dieu veut sa gloire pour lui-même. Dieu veut le salut du prochain pour nos relations avec nos frères. Dieu veut notre sanctification personnelle. On la connaît, la volonté de Dieu. Pour lui-même, sa gloire. Pour les autres, le bien de leur âme. Alors je ne ferai rien qui puisse faire du tort à une âme. Voilà comment je dois comprendre les choses. Et puis pour moi-même, ce que Dieu veut, c'est ma sanctification. Alors je sais très bien les choses qui peuvent me sanctifier, c'est-à-dire me garder près de lui, mais je sais aussi quelles sont les choses qui peuvent m'éloigner de lui. Nous prions, ne nous induis pas dans la tentation, puis nous y courons vers la tentation. Mais je sais m'arrêter, hein. Stop. J'irai jusque-là, mais pas plus loin. Mais non, il n'y a pas de miracle. Si vous prenez le chemin de la tentation, il n'y a pas de miracle. C'est pas Dieu qui vous tente, c'est votre convoitise qui vous pousse. Et vous ne pouvez pas dire que vous pourrez vous arrêter. C'est pas vrai. Il faut être droit et il faut être sincère. Et il faut savoir que nous n'avons pas de force en nous-mêmes. Et que Dieu ne nous donnera pas la force de résister quand nous courons nous-mêmes vers le précipice. Alors je vous le demande affectueusement, avez-vous compté les choses promises? Avez-vous envisagé tout ce qui vous est promis? Tout ce qui vous est promis, c'est pas le paradis terrestre, c'est le paradis de Dieu, et c'est autre chose. Relisez le chapitre 21 de l'Apocalypse, relisez ce chapitre 22, et vous aurez une vision de ce qui vous est promis. Il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus de larmes, plus de cris, plus de... La mort ne sera plus, les choses anciennes seront passées, toutes choses auront été faites nouvelles. Alors dans combien de temps? Un peu de temps. Et celui qui doit venir viendra. Et l'apôtre Pierre lui-même, dans le chapitre 1er de sa première épître, nous dit que pour un peu de temps, nous devons passer par diverses afflictions. Mais nous les trouvons toujours trop longues, ces afflictions. Mais c'est un peu de temps. En comparaison de l'éternité, qu'est-ce que c'est que notre vie humaine, 80 ans? Qu'est-ce que c'est qu'une vie de 80 ans? C'est court. Et l'éternité qui est devant nous. Alors j'aurai souffert pendant 80 ans, mes misères pendant 80 ans, puis la gloire pendant les siècles. Dans le chapitre 60 d'Ésaïe, il est dit, alors les jours de ton deuil seront finis. Dieu compte nos épreuves en jours, mais quand il veut parler de notre bonheur, ce sont les siècles des siècles de l'éternité. Est-ce que cette parole ne vous dit rien? Ou bien vous pensez, c'est un illuminé, c'est un fou, comme on le dit? Bien oui, peut-être. Mais heureux les fous. Pourquoi est-ce que nous aurions peur qu'on nous traite de fous? Parce qu'on aime le Seigneur. Un peu de temps. Et alors la partie centrale, or le juste vivra, c'est le texte d'Habacuc, mais qui est repris ici, Habacuc 2, verset 4, et j'ai la tentation de vous lire ce passage, parce que c'est tellement beau, ce ne sont pas mes paroles. Je vous les transmets comme elles sont dans le livre. Verset 3 du chapitre 2. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Un peu de temps, hein. Mais c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. L'heure, le jour, le mois, l'année. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, révolte-toi. C'est votre version, révisée. Si elle tarde, attends-la. Savoir attendre, souvent c'est le dernier quart d'heure qui est plus difficile. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Vous voyez ces répétitions. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. les oui du Seigneur. Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Et vous savez, quand on reste un peu ouvert à tout ce que l'on peut entendre et voir, on est vraiment saisi en disant, mais est-ce qu'on est déjà si loin pour que des théologiens éminents disent bientôt il n'y aura plus une église hiérarchique, chaque croyant devra vivre directement en relation, il travaille et il rassemble, il n'y a pas besoin de faire partie d'une organisation pour qu'on soit une vraie église, il est question d'être membre avant tout du corps du Christ. Certes, nous bénissons Dieu pour les communautés où l'on peut se rassembler dans la liberté de l'esprit, mais dans l'amour aussi pour les autres qui se rassemblent ailleurs que chez nous. Que nous puissions comprendre ces choses. L'Esprit de Dieu travaille. Il vous faut une relation personnelle avec Dieu. Ce n'est pas de la vie de votre Église que vous devez vivre. C'est d'une vie personnelle avec le Seigneur. Alors vous apporterez la vie. Dans votre église, vous viendrez rempli et non pas pour être rempli. Vous viendrez pour déborder et non pas pour être édifié seulement. Mais votre témoignage sera une édification pour tous. Et les inconvertis qui pourraient entrer seront saisis par la puissance du Saint-Esprit manifesté au milieu de vous. Le juste vivra de foi. C'est répété dans Romains 1, 17, dans Galates 3, verset 11, je le dis, c'est le thème central de la Bible. Car ce qui arrive à celui qui se retire, eh bien, vous aurez médité, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ce plaisir de se savoir pardonner, ce plaisir de connaître la bonté de Dieu tous les jours de notre vie, comme on l'a chanté en citant le psaume 23, et même ce plaisir que l'on peut avoir le jour de sa mort, comme Jacob, qui avait pourtant eu une vie assez bousculée, eh bien, il avait boité un peu toute sa vie. Mais comment est-il mort? Il a adoré appuyé sur le bout de son bâton. Une vie qui finit dans l'adoration, c'est pas la mort. S'endormir pour aller près du Seigneur, le bonheur du départ. C'est pas encore le bonheur éternel, mais on est heureux, on s'en va vers le Seigneur. Non, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Mais je veux croire que vous êtes de ceux qui persévèrent et qui, comme le dit cet épître, de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alors, vous me permettez encore une question? Hier soir, vous qui étiez là, est-ce que vous êtes posé ces questions que je vous ai suggérées? Si Jésus revenait cette année, ce mois, cette semaine, demain, ou aujourd'hui, est-ce que vous pourriez dire Amen? Bien, Seigneur Jésus. Voyez-vous, ce n'est pas un simple exposé doctrinal et dogmatique qu'on m'a demandé de faire, mais de souligner avant tout les effets pratiques que doivent avoir ces vérités dans votre vie. Alors, je vous dis, qu'attendez-vous vraiment? Est-ce que vous attendez le Seigneur? Je vous dis quelques textes. Psaume 130, verset 6, qu'est-ce qu'on entend? Mon âme attend le Seigneur, plus que les sentinelles l'attendent le matin. Est-ce que c'est cela votre attente? Mon âme attend le Seigneur, plus que les sentinelles l'attendent le matin, ou bien que vous attendez une femme, un mari, une maison, un nouvel appareil de télévision. C'est ça votre attente? Vers quoi votre cœur soupire-t-il? Mon âme attend le Seigneur, plus que les sentinelles m'attendent le matin. Non, j'attends une autre chose. Vois-tu un chat? Un nouveau chat. C'est là votre attente. Oh, quelle attente bien heureuse. Toutes les complications que vous aurez avec. Mon âme attend le Seigneur. Quelle heure les Juifs, qu'est-ce qu'ils attendaient? Ils attendaient la résurrection. Acte 24, verset 15. Mais ils ne savaient pas grand-chose sur la résurrection. C'était l'espérance d'Israël, la résurrection. Et Paul dit, c'est pour l'espérance, c'est pour l'attente d'Israël que je suis arrêté. Il se fait israélite avec les Juifs, il se fait juif. Hein. Mais on voit la connaissance qu'avait Marc. Oui, je crois la résurrection, mais mon frère ressuscitera quand? Au dernier jour, hein. Alors, c'est loin, le dernier jour. C'est pas ça, seulement. Ou alors, Galates 5, verset 5, c'est le monde qui attend l'espérance de la justice. On attend dans ce monde d'injustice l'espérance de la justice. Mais comment viendra-t-elle? Par la foi. Par la foi, c'est par le retour du Seigneur, le seul juste, que cette espérance sera réalisée. C'est pas les hommes, ils sont injustes de nature. Ils ne peuvent pas établir la justice. Alors, c'est une utopie d'attendre l'espérance de la justice sans la foi. Des gens incrédules qui veulent apporter la justice sur la terre. Des gens sans Dieu. Et puis, dans Philippiens 3, qu'est-ce qu'on en entend? Nous attendons du ciel qui, le Seigneur Jésus, l'homme, sauveur. Non, mais il est déjà venu. Mais oui, mais nous l'attendons encore comme sauveur. Il transformera le corps de notre humiliation en un instant, en un plein œil. Il le transformera en la conformité de son corps de gloire, selon ce pouvoir qu'il a de s'assujettir même toute chose. Qu'est-ce que vous attendez? Si vous attendez le Seigneur, eh bien vous savez que d'un instant à l'autre, vos infirmités seront finies. D'un instant à l'autre, vous aurez un corps rendu semblable au Seigneur par sa puissance glorieuse. Et les Thessaloniciens qui avaient entendu si peu de temps l'apôtre Paul ont rendu témoignage qu'ils s'étaient détournés de leurs idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et attendre des cieux son Fils Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Oui, nous attendons le Seigneur une seconde fois, comme le dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 9, parce qu'il vient une première fois pour régler la question du péché, mais il vient une seconde fois, il dit, pour apporter le salut à ceux qui l'attendent. Alors, est-ce que nous l'attendons? Et donc, Tite, le chapitre 2, la grâce qui nous apporte le salut, et nous apporte aussi cette bienheureuse espérance. Nous savons comment nous pouvons vivre dans ce siècle, dans la sobriété quant à nous-mêmes, dans la justice quant aux autres, dans la piété quant à Dieu, attendant la bienheureuse espérance. Est-ce que le retour de Christ est pour vous une bienheureuse espérance, ou est-ce que cela vous crée un malaise? J'ai vu souvent ce malaise. Empoigner une salle, il y avait 1500 personnes. On n'aimait pas, et pourtant c'était un milieu évangélique qui croit toute la Bible à l'inspiration des Écritures. Mais parler du retour de Jésus, eh bien, on n'aimait pas ça. Pourquoi? Parce qu'on veut vivre sur la terre. Et alors pour les Juifs, qu'est-ce qu'ils attendent? J'ai entendu Menahem Begin un jour à Jérusalem lorsqu'il était dans la détresse. Il a dit à la télévision, le salut ne peut venir que par le Messie. Pour Israël, le salut ne peut venir que par le Messie. Seulement, ils ne savaient pas, ou ils voulaient ignorer que le Messie qu'ils attendent est déjà venu une fois. Et que quand ils verront qu'il a les mains perdues. Et on lui dira quelles sont ses blessures à ses mains. Ce sont celles que j'ai reçues dans la maison de mes amis. C'est dans ma carrière. Et alors, tout à coup, ils se convertiront. Et ils se lamenteront, ils pleureront. Comme on pleure sur un fils unique. Quel fils unique? Le fils unique de Dieu. Comme on pleure sur un premier-né. Le premier-né de qui? le mari, tout seul, et ils n'ont pas même besoin du Nouveau Testament pour être amenés à la foi au Messie. Et pourtant, ils commencent à reconnaître le Nouveau Testament comme faisant partie de leur patrimoine national, parce que tous ceux qui ont écrit sont des Juifs, à part Luc, le médecin bien-aimé qui était grec. Et puis, il n'y a pas seulement ça, mais toute la création est dans l'attente, dans la souffrance. Vous parlez des arbres, des pluies acides, de tout ce que vous voudrez. Eh bien, la création tout entière est dans la souffrance et soupir. Elle attend la délivrance. Alors, je vous ai dit, et c'est cela notre fin, j'ai dit que je traiterai pourtant le fait du retour de Jésus, pour que vous soyez bien convaincus que c'est vrai, mais on m'a demandé surtout de souligner l'aspect pratique. Qu'est-ce que c'est devenu, vous? Qu'est-ce qu'elle opère dans votre vie? Mais il nous faut quand même être plus dogmatique. Et alors, je vous l'ai dit hier soir, la première venue de Jésus, elle embrasse toute sa vie ici, bah, la première venue du Messie, c'est toute sa vie que vous avez dans l'Évangile, et que Pierre résume en quelques mots chez Corneille au chapitre 10, verset 37, quand il dit à des païens, vous connaissez l'événement, la traduction œcuménique de la Bible, vous connaissez l'événement, et qu'est-ce que c'est cet événement? Jésus, et qui est allé de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux que le diable avait asservi à sa puissance. Et les gens qui écoutaient Pierre, tout à coup, eh bien, ils ont cru, et ayant cru, le Saint-Esprit est tombé sur eux, et il y a eu les mêmes choses qu'à la Pentecôte à Jérusalem. Voyez-vous, le fait du retour de Christ, il est attesté, ce n'est pas une doctrine sectaire, il était attesté par le Seigneur lui-même. Il a dit, je reviendrai, Jean 14, je vais vous préparer une place, et je reviendrai. Il a dit à son père dans sa prière, Père, je veux que quant à ce que tu m'as donné, que là où moi je suis, il y soit aussi avec moi. Et le jour où il était enlevé, le jour de l'ascension, là, qui approche, où il était enlevé dans la gloire, quand les disciples regardaient leur Seigneur s'en aller dans les nuées et disparaître, deux anges sont venus leur dire, celui que vous avez vu s'en allant au ciel reviendra de la même manière. Et Pierre a confirmé ce fait après la Pentecôte, devant le peuple juif à Jérusalem, acte 3, que le Seigneur reviendrait. Paul a souligné ces choses, comme nous le verrons demain, dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 15, dans l'Épître aux Thessaloniciens, tous les chapitres nous parlent de ce retour. Dans l'Épître aux Philippiens, le verset que je viens de vous citer, nous attendons Jésus comme sauveur, non plus comme sauveur de nos âmes, mais comme sauveur de nos corps, car c'est un salut total qui nous a acquis à la croix. Et puis, si vous lisez Jean, les Épîtres de Jean et l'Apocalypse, eh bien, vous voyez le fait du retour du Seigneur est attesté là aussi, et même Jude nous en parle en citant Hénoch, le patriarche. Alors, un mot tout simple encore, pour que vous n'ayez pas de confusion dans vos esprits au sujet de ce retour du Seigneur, parce qu'il y a des confusions terribles. Pour certains, le retour du Seigneur, ben, c'est la mort. Jésus vient pour vous prendre. Je ne dis pas qu'il ne sera pas là, mais il ne vient pas, il est déjà avec nous. Nous marchons avec lui, puis quand nous arrivons au bord du fleuve de la mort, il dit, passons à l'autre rive. Mais je ne m'en vais pas vers Jésus, Jésus est déjà avec moi spirituellement. Mais ce n'est pas son retour le jour de la mort. Mourir, ce n'est pas le retour du Seigneur. Il est avec nous et il nous emmène sur l'autre rive, ça c'est son action spirituelle, mais quand nous parlons de son retour, c'est un retour vraiment personnel, un retour glorieux. Alors ne pas confondre le retour du Seigneur avec le moment de la mort, ne pas confondre le retour du Seigneur avec la venue du Saint-Esprit. On nous dit, mais il est venu par son Esprit le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ce n'est pas le retour du Seigneur, c'est la venue du Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité, que nous ne devons pas séparer des deux autres, le Père et le Fils. Mais à la Pentecôte, c'est la manifestation du Saint-Esprit. transforme les âmes. Et puis, il y en a qui pensent que le retour du Seigneur, c'est chaque fois qu'on communie à l'Eucharistie ou à la Sainte Cène. Hein, c'est ceci en mémoire de moi, alors là, le Seigneur vient. Et on fait dans certaines églises, les églises, où on demande que le Saint-Esprit opère. On en aurait peut-être besoin de ça, parce que bien souvent on mange et on boit, sans discerner le corps du Christ. On devrait faire l'épiclèse, c'est-à-dire demander, Seigneur, donne-nous de discerner par-delà les éléments pain et vin, le corps et le sang du Seigneur. Et notre communion serait réelle et bénéfique, alors que bien souvent, une communion légère entraîne beaucoup de maux, de maladies, et même la mort de certains. On ne communique pas d'une façon légère. Alors, soyons bien en garde. Et puis, ne pensons pas non plus que le retour du Seigneur est arrivé à la destruction de Jérusalem. Il y en a qui disent cela aussi, que c'est ça le retour du Seigneur, la destruction de Jérusalem, parce qu'il l'avait prédit. Il est présent dans nos rassemblements. Là où deux ou trois sont assemblés en son nom, en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Vous avez dit qu'il était là. Vous le croyez encore ce soir? Alors après avoir vu ce que n'est pas le retour de Christ ou la venue du Seigneur, et bien terminons par la place importante que cette doctrine occupe dans l'Écriture. Et ce qu'elle dit aux croyants, c'est-à-dire à l'Église, ce qu'elle dit aux convertis, c'est-à-dire au monde, et ce qu'elle dit au peuple juif en Israël. Je vous le dis simplement, 318 versets dans le Nouveau Testament mentionne le retour du Seigneur. Dans les 260 chapitres du Nouveau Testament, il est parlé 318 fois du retour du Seigneur. Cette vérité occupe donc une proportion d'un verset sur 25 de Matthieu à l'Apocalypse. Et puis dans l'Ancien Testament, la majorité des versets que l'on trouve au sujet du Messie se rapportent à sa seconde venue. Et vous le savez, il y a plus de 1500 textes dans l'Ancien Testament qui se rapporte à sa seconde venue. Mais, comme je vous l'ai souligné hier soir, c'est avec les seuls versets de l'Ancien Testament concernant sa première venue que l'on pourrait écrire une vie de Jésus-Christ. Et cela nous montre que les prophéties qui se sont accomplies l'ont été littéralement et non pas spirituellement. Alors, pour sa première venue, c'était littéral. Pour sa seconde venue, nous pouvons croire aussi que ce sera littéral. Comprenez-vous? Alors, le retour de Christ, voyez-vous, c'est la doctrine que Dieu nous commande d'apporter aux croyants dans leurs afflictions par qu'elles consolent et les consolent. Le retour de Christ et les événements qui s'y rapportent sont vraiment l'espérance bienheureuse de l'Église. Et le désir aussi des croyants véritables. Puis, c'est la dernière parole de la Bible. Je viens bientôt. Est-ce que vous pouvez dire ce soir? Amen. Viens, Seigneur Jésus, mais en croyant que ça peut se faire. Le retour de Christ, c'est aussi la doctrine qui suscite le plus de haine, le plus de raillerie de ceux qui marchent dans leur propre convoitise. Les églises mondaines et les chrétiens mondains détestent cette vérité. Alors vous pouvez savoir ce que vous êtes aujourd'hui. Mais le fait du retour de Christ est le grand argument pour une vie de vigilance, de fidélité, de sagesse, de simplicité, d'activité, de tempérance, de prière, d'intimité avec Jésus, le retour de Christ, c'est l'événement le plus important que doivent attendre les disciples de Jésus-Christ. Quant aux Juifs, nous savons qu'ils appartiennent. Alors, je termine par une lecture que je fais avec vous pour vous montrer que Jésus nous a bien alertés. Luc 12, verset 35. que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître vienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera bénis. Je vous le dis en vérité, il se ceindra, les ramènera à table, s'approchera pour les servir. On devrait tomber à vie. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et qui est-ce qui a dit ça? Je n'ai pas dit qu'il viendra à l'heure où vous n'y penserez. Mais justement, à l'heure que vous ne penserez pas. Alors, sommes-nous de ceux qui l'attendent? Ou bien sommes-nous de ceux qui disent « Mon maître tarde à venir » Je vous lis le dernier texte qui est dans chapitre 24 de Matthieu, pour que vous ayez cela et non plus tout ce que j'ai pu vous dire dans ma grande faiblesse, mais que vous ayez vraiment cette parole de Dieu, verset 36 du chapitre 24 de Matthieu. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien. Jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé, donc ça sera le jour. Pour certains qui habitent dans un autre hémisphère. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée du travail. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Vous ne savez pas le jour où il viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer. C'est pourquoi vous oubliez la vie. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis, en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir. S'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là que seront les pleurs et les grincements de dents. C'est la parole de Dieu que nous venons de lire. Demain, Dieu voulant, alors nous répondrons à ces quatre questions, parce que nous pensons que l'auditoire est préparé. Comment s'effectuera son retour? Quel est le but de ce retour? L'époque de sa venue et les résultats de ce retour pour l'Église, pour le monde et pour les justes. Hier soir, je répondrai aussi à vos questions. Et hier soir, déjà, quelqu'un est venu me demander, parce que je me suis permis de citer trois papes, on m'a demandé où j'avais pris ça. Je vous prie de croire que je ne me permets pas de faire une citation sans qu'elle soit contrôlée
Mais comme je sais que vous ne lirez pas les encycliques, je n'ai pas besoin de vous dire dans quelle page de telle encyclique j'ai trouvé ces choses. Et je peux vous dire qu'elles sont merveilleuses. Que ce soit Tito, que ce soit Jean 23, ou que ce soit Paul VI, le retour du Christ n'est pas loin. Le retour du Christ est proche. Le retour du Christ est presque imminent. On dirait que c'était des mouvements. Le brigand sur la croix aussi était un mouvement. On ne part pas les paroles du brigand. Mais je vous dis, si vous accordez la grâce à un brigand mouvement, vous pourriez vous accorder la grâce à des hommes. Dieu notre Père, ce n'est pas le témoignage des hommes qui compte pour Dieu, mais c'est ta parole. Et ce qui nous émerveille ce soir, c'est de voir que cette parole qui est quand même lue, tout à coup devient vivant, tout à coup devient opérant. Et que certaines vérités que l'on ne voulait pas reconnaître s'imposent à l'homme. Et nous voulons te demander que nous qui prétendons croire à cette parole, nous soyons vraiment qui n'attendent pas leur vivant pour t'attendre, mais qui vivent en t'attendant. Le dos tourné aux idoles et à tous les fonds de ce siècle, pour n'avoir plus devant les yeux que Jésus et Jésus seul, le chef et le consommateur de la foi, l'alpha